Ésaïe chapitre 6, Ésaïe chapitre 6, versets 1 à 5. C'était l'année où mourut le roi Ozias. Dans une vision, j'aperçus le Seigneur assis sur un trône très élevé. Le pan de ses manteaux remplissait le temple. Des anges flamboyants se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes. Deux leur servaient à se cacher le visage, deux à se voiler le corps et deux à voler. Ils criaient l'un à l'autre: Saint, Saint, Saint est le Seigneur de l'univers. La terre entière est remplie de sa gloire. Leur voix faisait trembler les portes sur leurs pivots. Et le temple se remplit de fumée. Je dis alors: Hélas, me voilà condamné au silence, car mes lèvres sont impures pour me joindre à cette louange, et j'appartiens à un peuple aux lèvres tout aussi impures. Or, j'ai vu de mes yeux le roi, le Seigneur de l'univers. Amen. Quelle scène extraordinaire! Je ne sais pas pour vous, mais rien qu'en suivant cette lecture, cela me donne la chair de poule. Ésaïe décrit bien la vision de sa vocation. Il a dit qu'il a vu le Seigneur. De ses propres yeux, il était assis sur un trône très élevé. Il a vu le bas de son vêtement qui remplissait le temple. Faites un peu une imagination, la vision qu'il aurait pu voir. Ensuite, il raconte qu'il a vu aussi les séraphins, les anges, qui se tenaient au-dessus de lui, qui avaient chacun 6 ailes, qui leur permettaient, les deux d'abord, de couvrir la face, les deux les jambes, et les deux autres pour voler. Rien que cette partie-là, je suis sûr que beaucoup diront, c'est impossible. Soit il était en extase, qu'il avait une hallucination, parce que, rappelez-vous, il était dans le lieu très saint du temple, là où il y avait l'arche de l'Alliance, et sur l'arche de l'Alliance, il y avait sur les quatre côtés, il y avait les chérubins en or avec des ailes. Et dans la croyance israélite, l'Éternel siégeait au-dessus de l'arche et son siège était entre ces chérubins en or. Alors pendant le culte, on va dire pendant les sacrifices, il se pourrait qu'Ésaïe fût trop enthousiaste, disent certains, pendant le rite du sacrifice. Parce qu'il y avait la fumée des sacrifices effectués par les grands prêtres et avait fait cette déclaration pour marquer peut-être son dévouement. Et beaucoup disent, oui, c'était peut-être sous l'effet de tout cela. Cette explication satisferait tout le monde, car c'est la seule qui puisse paraître la plus probable. Mais je suis désolé, si c'était un cas isolé, je pourrais m'adhérer à cette idée, il aurait pu avoir une hallucination. Mais ce n'est pas un cas isolé dans toute la Bible. Ce que nous avons ici dans ce lectionnaire n'est pas un cas unique. Et je vais vous démontrer. Il y a au moins 3 récits dans la Bible qui montrent des similitudes d'apparition et de manifestation de Dieu face aux hommes qu'il a choisis. Le premier. Le récit de la vocation de Moïse, une théophanie, la manifestation de la gloire de Dieu, toujours sous la forme d'un feu. Un feu dévorant. Mais étonnamment, ce feu dévorant ne détruisait pas la plante, le fameux buisson ardent. Deuxième cas, nous pouvons aussi retrouver cette théophanie de Dieu chez Daniel, au chapitre 8 du livre de Daniel. Dieu qui se manifestait à lui sous un aspect d'un homme vaillant. Cet homme a parlé et s'adressé à l'ange Gabriel, comme ici c'est les séraphins, pour faire comprendre la vision que Daniel venait de voir. Et alors, si vous avez lu le chapitre 8 de Daniel, il est dit que lorsque cet homme, avec un grand H, s'approchait de Daniel, il fut rempli d'effroi, il tombait face contre terre, mais l'homme s'avança, le toucha et fit tenir debout. Et enfin, le troisième récit, qui se situe dans le Nouveau Testament, et celui-ci est exactement pareil à ce qui s'est passé avec Daniel chez l'apôtre Jean dans l'Apocalypse au chapitre 1. Lorsqu'il a vu la vision apocalyptique, il est dit qu'il fut saisi par l'Esprit, il entendit une voix forte comme le son de la trompette, et il ne supportait pas la force de cette voix, la voix de cet homme qu'il a vu. Il fut aussi tombé par terre aux pieds de cet homme qu'il a vu. Et lui posa sa main sur lui, même comme l'histoire de Daniel. Vous voyez, j'ai fait exprès tout ce détour, que ce n'est pas du tout une hallucination qu'Ésaïe avait vue. C'était vraiment une manifestation que les gens d'aujourd'hui qualifieraient de mystique. Et je profite en passant, même si ce n'est pas le thème de notre méditation de ce matin, ces apparitions divines peuvent toujours arriver, même aujourd'hui. Et comme on a annoncé la semaine passée, qu'on le veuille ou non, Dieu peut faire vivre cette expérience à qui il veut. Mais ce qui nous intéresse dans ces récits, en contraste avec notre texte, c'est le choc qui s'est passé. Le choc entre le tout autre. Le tout autre ici, c'est Dieu. Et je vais revenir là-dessus tout à l'heure. Le choc entre la rencontre avec le tout autre qui est trois fois saint, comme on vient de chanter tout à l'heure, et l'homme pécheur. Normalement, comme Ésaïe l'a dit, « Malheur pour moi, je suis perdu, j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures, et mes yeux ont vu le roi, le Seigneur, Yahvé, des armées. » En même temps, il est pris par une grande peur, car il savait pertinemment que normalement il devrait mourir. Personne ne devrait voir Dieu vivant, même s'il ne voyait que le bord de ses vêtements. Vous imaginez, Ésaïe a vu les pieds de l'Éternel. Je ne sais pas ce que ça peut vous donner comme idée. Rien que ça, il était tombé par terre, presque mort. Mais en même temps, il est surpris de voir qu'il vit encore. N'est-ce pas l'image du buisson ardent? La plante qui brûle, mais qui n'est pas consommée. Voilà la sainteté de Dieu. La sainteté de Dieu ne détruit pas. La sainteté de Dieu n'est pas destructrice. La sainteté de Dieu est bénéfique. Elle est puissante. Elle est lourde. La lumière ici est traduit dans l'hébreu le kabod, puissant, lourd, on ne peut pas supporter. Mais ici, dans ce texte, cette sainteté fait rendre conscient à Ésaïe qu'il est pécheur. Lui seul est conscient qu'il est pécheur. Personne ne l'a dit que tu es pécheur. Face à cette lumière, tu es nu devant Dieu. Tu sais que tu es pécheur. Face à cette lumière éclatante, il ne peut se rendre compte qu'il est vraiment le contraire de ce Dieu qu'il voit. Il a compris qu'il y a tellement de différence entre lui et son Dieu. Et là, je reviens à ce que j'ai dit au tout début. Je reprends le terme que j'ai mentionné tout à l'heure, le tout autre qui est Dieu, le trois fois saint. Quand on dit le tout autre, c'est celui où nous n'avons aucune prise sur lui. Et dans sa description, Ésaïe était un peu vague. Il ne voyait pas vraiment Dieu, mais il savait que c'était Dieu qu'il avait vu. Vous voyez, c'était un peu flou, Mais en lui, il savait que c'était l'Éternel. Et je reprends les mots d'une bibliste catholique qui s'appelle Marie-Noëlle Tabut, que j'apprécie beaucoup. Voici ce qu'elle disait. Il nous est radicalement, irrémédiablement impossible de l'imaginer tel qu'il est, c'est-à-dire Dieu. Nos mots humains ne pourront jamais rendre compte de lui. Voilà le tout autre. Donc, tout lui oppose à nous. Tout lui oppose à son prophète qu'il va envoyer. D'un côté, la fragilité d'Ésaïe. D'un côté, l'inconstance d'Ésaïe. Or, celui-ci qui va être envoyé, celui qui est fragile, celui qui est pécheur, celui qui appartient à un peuple aux lèvres impures. Et de l'autre côté, la force de celui qui va envoyer, la capacité qu'il va donner, la sainteté de celui qui va envoyer. Vous voyez ce contraste incroyable. Et dans ce texte d'Ésaïe, ce qui me frappe en moi est ce saint d'Israël qui est le tout autre de l'homme. Ce tout autre, pourtant il a choisi Ésaïe, au lieu d'envoyer le séraphin. Regardez le texte. Le séraphin, il est parfait. Il est saint aussi. Si nous lisons bien la description qui a été donnée sur ce personnage, il avait une marque de sainteté, ce séraphin. Mais non, Dieu n'envoie pas les séraphins, Dieu envoie l'homme misérable. Même si séraphins n'étaient pas Dieu, au moins ils avaient plus ou moins des qualités spirituelles par rapport à celui qui envoie. Et par rapport à Ésaïe, qui se dit un homme aux lèvres impures, au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et on sent très bien que l'accent est bien mis sur cette grande différence, l'éloignement qu'il y a entre l'Éternel et son serviteur. Mais cela ne l'a pas empêché de le choisir, de l'envoyer vers son peuple. La question que Dieu a posée vis-à-vis d'Ésaïe est interpellante. Vu la façon dont Ésaïe a décrit son Dieu, il est super puissant. Un Dieu qui siège sur un trône de gloire. Il possède des millions d'anges prêts à lui obéir à toute heure, 24 heures sur 24. Mais pourquoi ce Dieu qui a tout ça entre ses mains, il veut à tout prix passer par l'homme? C'est pas normal. J'ai assisté la semaine passée à une conférence du grand rabbin de Bruxelles, le rabbin Albert Guigui. Le sujet était sur qui est Jésus pour les Juifs d'aujourd'hui. Dans son allocution, il avait soulevé que les Juifs et les chrétiens, tous les deux, sont tous en attente. L'un, les Juifs, est en attente de la venue du Messie, disait-il. Et les chrétiens, de l'autre côté, ils sont aussi en attente du retour du Messie. Vous voyez la différence? Eux, ils attendent la venue du Messie, nous attendons le retour du Messie. Mais ce qui m'a frappé dans son explication, qui à la fois m'a choqué négativement et en même temps, bizarrement, positivement, les deux en même temps, bizarre comme réaction, mais c'est ce que j'ai ressenti au moment de sa conférence. Il avait raconté une histoire juive. Je ne sais pas si c'est une Agada, mais bon, c'est une histoire qu'il a racontée. Qui racontait que des rabbins, un jour, qui allaient au marché, auraient vu Élie, le prophète Élie, au marché, dans une vision. Alors les deux, quand ils ont vu Élie au marché, ils se sont accourus. Ils se sont accourus vers lui et lui a demandé: Élie, quand est-ce que le Messie viendra? Et Élie aurait répondu: demain. Et alors, ils étaient tout contents le lendemain. Ils étaient là, les deux étaient là à attendre. Mais le soir arriva, Jésus, le Messie n'était pas là. Ils étaient déçus. Alors le lendemain matin, Tout triste, il partait à nouveau encore au marché. Et là, ils ont encore vu Élie au marché. Et lui ont demandé, mais pourquoi tu nous as menti, Élie? Élie leur répondrait, si vous le souhaitiez vraiment qu'il vienne demain, préparez sa venue. Et donc la leçon dans l'histoire, d'après lui, c'est que la venue du Messie dépendrait de l'attitude des cœurs des hommes qui vont l'accueillir. Donc, pour les Juifs, finalement, le Messie viendrait au conditionnel si les cœurs des hommes sont prêts à l'accueillir. Et c'est cela qui m'a choqué. Mais après, il a donné une autre explication sur le pourquoi de l'existence du mal dans le monde pour les Juifs, depuis le début de la création. Et là, ça m'a choqué de façon positive. Encore une fois, ce rabbin a dit, Dieu a créé l'homme pour donner une responsabilité à l'homme de continuer l'œuvre créatrice de Dieu. Sur le fond théologique, il y a matière à discussion, mais je n'entre pas dans le côté dogmatique. Mais sur la forme, je me suis dit, mais c'est vrai. Quand j'ai préparé cette méditation, je me suis dit, Seigneur, pourquoi tu m'as appelé et tu m'as confié cette tâche si importante? Pourtant, tu sais trop bien que je ne le fais pas assez comme tu le souhaiterais. Tu sais déjà à l'avance que je ne le pourrais pas le faire exactement comme tu le veux. Et là, la question, est-ce que tu ne prends pas trop de risques en me confiant ton ministère? Au moment où j'ai préparé cette méditation, je sentais que Dieu me parlait à moi-même. Tu sais, Jean-Luc, j'ai pris d'énormes risques à te choisir. Je te connais. Je sais tes limites. Mais je t'ai choisi quand même. Quand même! Le risque n'est pas à 50%, mais 99,9%, je vais faillir. Si 50%, 1 sur 2, on va voir si ça va passer. Mais il sait qu'à 99,9%, je vais faillir. Mais malgré tout, il nous dit ceci. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi. C'est moi qui vous ai choisi. Et je vous ai chargé d'aller, de porter des fruits, et des fruits durables. Voilà ce que le Seigneur nous attend. Il sait tes limites. Il connaît tes limites. Il sait que peut-être tu ne vas pas réussir, peut-être que tu vas échouer, mais il dit, c'est moi qui t'ai choisi. Et tout est dit dans cette phrase.